L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec Mille et Une Vie Habitat, Omélior, BT Immo et Castignac sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo, Radio Territoria. On est toujours en direct du salon de l'AMIF, Porte de Versailles à Paris, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France. Et justement, on en reçoit un de plus, c'est le maire de Montreux-Foyronnes. Bonjour James Chiron.
Bonjour Fabrice, bonjour aux auditeurs.
Voilà, vous êtes également vice-président de la région Île-de-France. Voilà, ça fait pas mal de choses, et puis il y a d'autres choses, hein, évidemment, on peut pas tout citer, quoique. Vous êtes en charge du logement également, hein, c'est ça?
À l'AMIF, tout à fait, l'Association des maires d'Île-de-France, on est plusieurs référent thématique et j'essaye d'animer avec deux collègues le sujet du logement important dans notre région.
Extrêmement important, puis pas que de notre région, on en a parlé récemment au niveau national. Vous avez été convié à participer aux propositions du CNR Logement, le Conseil National de la Refondation. Vous l'avez suivi de loin?
Je l'ai suivi avec intérêt. Moi, je suis toujours étonné quand il y a des personnes qui sont en légitimité parce qu'elles ont été élues, parce qu'elles représentent des collectivités, des institutions qui sont des corps intermédiaires et puis qu'on les gomme d'un coup de plume pour faire appel à d'autres personnes. Je suis toujours étonné de cette procédure. En tout cas, avec les maires, les élus des communes de la MIF, on travaille beaucoup sur le sujet du logement parce que, comme partout en France, mais très singulièrement en Île-de-France, nous sommes sur un territoire où il manque de logement. Il faut donc construire et effectivement il faut convaincre notamment l'État d'accompagner plus les maires bâtisseurs. Il faut organiser les conditions naturellement de la construction et de l'habitabilité dans les quartiers que l'on construit ou que l'on reconstruit, et ça c'est un travail de tous les jours des élus. Moi je veux saluer les conseillers municipaux, les adjoints et les maires qui chaque jour travaillent dans ce secteur. C'est pas un coup de pub ou un coup de com avec une conférence de presse. Nous sommes en contact avec les habitants, les demandeurs de logement. Bien souvent dans les OPH, dans les conseils d'administration, dans les commissions d'attribution, siègent les maires ou les représentants des maires. Et c'est pour nous un sujet extrêmement concret. C'est les habitants de nos communes qui cherchent des logements et on est là pour les accompagner.
Oui, mais justement, Jeff Serron, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est de plus en plus compliqué pour vous aussi de contenter tout le monde quand on est maire. C'est loin d'être évident, mais même dans l'acte de construire, on est de plus en plus contraint parce que d'un côté, il y a des communes, on va en parler dans un instant, qui voient de plus en plus de gens arriver, et puis d'un autre côté, on a cette injonction à ne pas s'étaler au niveau urbain, c'est le fameux ZAN, zéro artificialisation nette. Il faudrait construire un peu plus en hauteur, mais à ce moment-là, vous avez tout un tas de gens qui vous disent non, pas question. Comment on résout cette équation compliquée?
Il faut trouver des points d'équilibre et convaincre. Et pour convaincre, il faut échanger, partager des objectifs. Depuis l'an 2000, on considère qu'en France, il faut construire 500 000 logements par an. Je crois qu'il n'y a pas une année au cours de laquelle cet objectif a été atteint. En Île-de-France, on considère que c'est 70 000 logements qu'il faut construire chaque année et on n'y arrive presque jamais. Donc effectivement, lorsque l'on est maire, on est confronté à la fois à des habitants qui cherchent un logement, qui demandent un logement. Plus de 2 millions de familles en France peuvent prétendre à un logement social. Pas de logements sociaux vides naturellement. Donc il faut construire ou réhabiliter, reconstruire et plutôt la ville sur la ville, parce qu'effectivement il y a aussi à la fois des habitants qui ne souhaitent pas que l'on transforme les spécificités d'un quartier, que l'on ne passe pas d'un quartier résidentiel, des maisons dans des jardins, à un quartier plus dense. Donc la question de la densification est parfois mal vécue par les habitants. Et puis naturellement, nous faisons très attention à l'étalement urbain. Il faut préserver les terres agricoles, forestières. Et c'est tout cet équilibre qu'il faut pouvoir partager avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir tendre à ce qu'est aujourd'hui l'obligation inscrite dans le marbre de la loi, c'est-à-dire qu'en 2050, nous devons arriver au zéro artificialisation nette. C'est d'ailleurs pour essayer de concourir à cet objectif que, ici, en Île-de-France, la région travaille à son futur schéma régional d'orientation, un document d'urbanisme qui va s'imposer ensuite aux différents territoires, aux autres textes, les SCOT, les PLU, et ce DRIF auquel nous avons rajouté un E avec Valérie Pécresse, Jean-Philippe Dugoin-Clément, le E comme environnement. Eh bien, nous y travaillons là très précisément ces jours-ci et ces semaines en poursuivant deux objectifs. Premièrement, le polycentrisme, comment nous faisons que à la fois les habitants mais aussi les activités économiques, les services publics, les services commerciaux soient mieux répartis sur le territoire pour ne pas contraindre des millions de gens, comme c'est le cas aujourd'hui, à se serrer dans les transports pendulaires et pour parfois parcourir des heures durant chaque jour des dizaines de kilomètres alors que c'est certainement inutile. Donc comment on développe plusieurs centres dans notre région, c'est le polycentrisme et puis naturellement la sobriété foncière. Quelle est l'urbanisation de demain? Comment est-ce que l'on construit ou reconstruit la ville sur elle-même et comment évite-t-on l'étalement urbain pour préserver les terres agricoles et forestières?
Justement, si on rezoome sur votre commune Montreux-Fourquyonne, on est à combien de kilomètres? Une quarantaine de Paris? Une quarantaine de kilomètres, un peu plus?
Vous pouvez multiplier par deux.
Ah, 80 kilomètres,
ouais. Non, on est à 90 kilomètres de Paris, une heure en train depuis la gare de Lyon, oui. Via la ligne R, des trains qui ont été entièrement... enfin, qui sont neufs grâce à Île-de-France Mobilité et une heure, une grosse heure par l'autoroute à 6 ou à 5.
Et il y a des Montrelais ou Montrelaises qui font le trajet justement pendulaire Montreux, Paris, Paris, Montreux tous les jours.
À la gare de Montreux, on a entre 9000 et 10000 passages chaque jour, dont la plupart naturellement sont des personnes qui prennent le train pour aller travailler ou étudier à Paris ou en petite couronne. Si vous prenez l'heure de train, le temps du rabattement avant, entre quelques minutes si vous habitez Montreux et puis peut-être 15-20 minutes si vous êtes un peu à l'extérieur, ouais. Et puis quand vous arrivez gare de Lyon, pour aller travailler ou étudier, vous avez encore entre une demi-heure et une heure de transport. 2 heures le matin, 2 heures le soir, c'est naturellement épuisant. Ouais. Ce n'est pas toujours d'ailleurs rationnel. Et pardon peut-être de le dire comme ça, mais la crise de la Covid, toute dramatique qu'elle ait été, a certainement participé à accélérer la transformation des mentalités pour aller vers plus de télétravail. Et aujourd'hui, avec un jour, 2 jours, 3 jours de télétravail par semaine, on peut peut-être éviter à certaines personnes cette surcharge mentale et physique d'un temps de transport qui est inutile.
Plus effectivement la dimension écologique aussi de ces transports. Bon, si on peut rester chez soi, c'est pas plus mal. Est-ce que vous avez observé justement suite à la crise sanitaire un afflux? C'est vrai que dans les communes comme ça autour de Paris, hein, jusqu'à 100-200 km, même beaucoup plus loin, Orléans, Angers, les gens se sont délocalisés entre guillemets. Est-ce qu'il y a eu aussi un afflux à Montreux de Parisiens ou d'autres communes qui sont venues?
Je crois que la crise a eu un effet accélérateur. Paris perdait déjà des habitants, Paris perd en attractivité. Paris, c'est une ville touristique naturellement, mais c'est aussi une ville où on habite, où l'on travaille. Paris a perdu quelques 120 000 habitants, je crois, ces dernières années. Et évidemment, la crise de la Covid a accéléré ce mouvement parce que une superficie correcte pour habiter dans son logement, parce que un espace extérieur à son logement sont devenus plus que capital aujourd'hui dans la réflexion des familles pour leur habitat. Et au regard du prix du mètre carré à Paris, c'est devenu impossible pour beaucoup des familles de la classe moyenne ou des classes les plus modestes. Et donc beaucoup d'entre elles cherchent simplement un peu de qualité de vie. Et les habitants de Paris ou de la petite couronne, effectivement, s'extraient de la centralité urbaine parisienne pour aller un peu plus loin. Départements comme la Seine-et-Marne naturellement, mais l'Essonne, les Yvelines, le Val-d'Oise ont naturellement vu des populations venir pendant le Covid, juste après le Covid. Ça vient aussi naturellement à Montreux avec du coup un marché qui est beaucoup plus fluide de l'immobilier et des prix qui augmentent un peu. Alors nous essayons de faire attention, nous avons des populations modestes dans notre territoire et on essaye de faire en sorte que les nouveaux
arrivants... On peut contrôler les prix ?
On ne peut pas contrôler les prix, mais on essaie de faire attention notamment dans le cadre des nouvelles constructions, dans le cadre d'exigences aussi que l'on porte sur les rénovations. Moi j'ai mis en place dès que la loi l'a permis, le permis de louer, le permis de diviser pour pouvoir accompagner les propriétaires et les locataires à faire monter en fait la qualité de l'habitat et on essaye naturellement de maîtriser, si ce n'est de contrôler, le prix du mètre carré au travers des constructions neuves qui viennent naturellement poser des étalons sur le prix au mètre carré. On vient chercher la qualité de vie aujourd'hui et je pense que, comme je l'évoquais à l'instant, le développement du télétravail, cet objectif de polycentrisme, de polycentralité dans le SDRIV vont vraiment accompagner cette stratégie plus personnelle des foyers à rester peut-être pas trop loin de Paris à un temps raisonnable pour les journées où on va travailler, une heure et demie maximum. Hein. Évidemment, cet élan a débordé de loin les frontières administratives de la région Île-de-France, mais tout en gagnant en qualité de vie. Je veux bien ici faire la promotion de Montreux, mais c'est une ville urbaine, on est néanmoins dans un écran de verdure exceptionnel, ouais. Au milieu des champs, à proximité des forêts, on a une réserve naturelle régionale insérée dans la ville.
Le parc naturel régional du Gâtinais juste à côté.
Le parc naturel régional du Gâtinais à côté, on a la réserve naturelle des Seglas, on est à la confluence de l'Yonne et de la Seine, enfin bref, c'est un petit paradis.
Attention, monsieur, à une heure de Paris. Les gens vont se précipiter sur Montreux.
Mais venez, on vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Venez visiter pendant les vacances cet été et puis peut-être que vous déciderez de vous y installer.
Eh ben, pourquoi pas. En tout cas, ben, on vous remercie, vous, d'être venu en plein centre de Paris, ici, pour répondre à nos questions sur Radio Immo, Radio Territoria. James Chéron, donc le maire de Montreux et vice-président de la région Île-de-France. Un grand merci et à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Homelior, BT Immo et Castignac sur Radio Immo et Radio Territoria.